vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Il y avait du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible.
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous.
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là. T'sais.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode été, donc en mode magazine. On va très peu parler de l'actualité, sauf des films qui nous tiennent à cœur durant cet été. Et nous avons chacun prévu de vous faire une série durant tout l'été. Moi, ce sera sur les génériques de début de film. Et toi, Guillaume ?
Ben moi, je vais vous parler de comment le cinéma a vu 2024, principalement dans le cinéma de science-fiction.
Et toi, Manu, ce sera en France.
Je vais vous parler des réalisatrices françaises ayant abordé le cinéma fantastique dans les années 2000, mais je vais commencer par une introduction au siècle dernier.
Pour cette première émission, toi, Guillaume, t'as choisi un joker. Tu vas nous parler d'un film que t'as beaucoup aimé.
Ben oui, c'est un immanquable du moment. C'est Horizon de Kevin Costner, qui a besoin de vous en salle.
Mais nous commençons cette émission donc avec la série sur le générique de film.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Que sont devenus les génériques de film? Il y a une tendance à les escamoter ou à les rendre purement informatifs jusqu'à les rendre fatalement ennuyeux. Alors c'est surtout le cas des films français, hein, j'ai remarqué. Un film débute avec le logo du distributeur, puis on enchaîne avec les producteurs et les télés qui ont l'obligation de soutenir la création cinématographique. Une fois que ces logos plus ou moins agréables à voir, il faut bien l'avouer, nous sont passés devant les yeux, peut-être qu'on a droit à une image du film. Eh bien, il y a une amorce du récit sur lequel défilent alors ces mêmes producteurs, mais cette fois-ci écrit en toutes lettres, c'est la double peine. Cette procédure, il n'y a pas d'autre mot, peut prendre parfois jusqu'à une minute parfaitement inutile pour le spectateur, sauf s'il n'a pas pu mettre son téléphone en mode avion. Alors, j'aime les génériques et encore davantage les pré-génériques, soit une séquence d'introduction avant qu'on me balance le nom des producteurs, du réalisateur, des acteurs et évidemment le titre du film. Durant cet été, nous allons parler donc de certains génériques qui ont marqué l'histoire du générique et du cinéma tout court. Alors le générique n'a pas toujours été aussi mal en point, mais il n'a pas existé au début du cinéma, même si très vite, avant 1900, un certain producteur, pour lutter contre le piratage, ont mis leur logo au début du film, l'année de réalisation et le numéro de copyright. Toutefois, il y a quelques audaces, comme le vol du Grand Rapide en 1933, avec une séquence d'ouverture dans laquelle un homme tire face caméra, introduisant ainsi un rapport d'interactivité avec le spectateur. De quoi peut-être leur mettre un peu la frousse aussi. Le voyage dans la Lune de Méliès en 1902 ne mentionne que le titre et la production Méliès. Les acteurs et techniciens sont pour l'instant laissés de côté avant qu'ils ne demandent, eh bien, eux aussi, à figurer en début de film, ce qui va arriver petit à petit à partir des années 1910. Alors ce n'est pas d'un grand intérêt pour le spectateur, si bien d'ailleurs qu'aux États-Unis, les films débutaient avec le rideau encore tiré. Mais un homme va demander que cette habitude cesse, c'est Saul Bass. Nous en parlerons une autre fois car il mérite une émission à lui seul, tant il a apporté à l'art du générique. Si le générique est plus ou moins bien travaillé, il y a un invariable, c'est le logo du studio qui l'a produit ou celui du distributeur, des logos accompagnés de musique. C'est pourquoi, pour cette première émission, alors là je fais juste une introduction, c'est pourquoi nous allons pouvoir jouer au blind test des studios de production, dont la musique revient inlassablement, pour peu qu'on aille dans les salles de cinéma et qu'on regarde effectivement du cinéma. Donc, vous l'avez compris, on va écouter 10 extraits de génériques de studio. Et donc, eh bien, il faudra trouver de quel studio il s'agit. J'ai pris les plus grands, évidemment. Attention, ça commence. C'est trouvé, Manu.
C'est Paramount.
Oui, c'est ça.
Universal, Paramount. Enfin, ah, c'était Paramount à l'époque. Paramount. Oui. C'est Universal, c'est arrivé après. Mais
gardons Paramount, parce que c'est la petite étoile qui arrive.
Et c'est intéressant ton petit bug sur Paramount Universal.
Mais c'est une
question
à un moment.
Les grands studios, au cours de tout le XXe siècle, jusqu'à même aujourd'hui, sont faits régulièrement à partir des 70, rachetés par des compagnies. Et donc, du coup, si vous regardez attentivement ces génériques de début, souvent, vous avez, par exemple, New Line avec AOL ou Warner Bros. Avec une autre compagnie. Et ça change régulièrement.
Mmh. Oui, effectivement, il y a une histoire aussi de ces rachats. Alors, deuxième extrait de ce blind test donc, consacré au générique de grands studios. Mmh. un des plus grands studios.
Et oui, c'est la Warner Bros.
Oui. Allez, troisième extrait. On le sent moins incisif que les autres, celui-ci, c'est...
C'est la Marguerite de Gaumont.
Oui, c'est ça. Donc, studio français. Allez, quatrième extrait de ce blind test. Alors, celui-ci était bien facile.
Universal ?
Oui, celui-ci est grandiloquent, en revanche. Allez, un autre extrait. Nous trouvons, nous cherchons des génériques de grands studios. Facile.
C'était donc la Fox.
Oui. Ouais. Il dure 20 secondes. Il est long, celui-ci. Hein. Il
composé par Alfred Newman, l'un des plus grands compositeurs de musique de film du XXe siècle.
Allez, encore un extrait.
C'est la Dame au flambeau de la Columbia.
Oui, c'est ça. Allez, un nouvel extrait, hein, toujours trouvé, donc un générique de grand studio. Donc, trouvé.
Oui, mais c'est le logo des studios Disney, mais pris du film Pinocchio, de la BO du film Pinocchio. C'est quand on rêve à la belle étoile. Là.
D'accord. Bah, il ressemble pas aux autres. Pourquoi moi, il m'était très familier.
Mais parce que depuis 1940, en fait, il a pris le dessus. C'est une musique tellement emblématique qu'elle a pris le dessus et c'est devenu le porte-parole, on va dire, de Disney aussi.
Et comme il rachète tout Disney, non, on va finir par n'entendre que lui. Allez, encore à l'extrait. Trouvé.
Des studios Canal.
Oui, voilà, on est parti du côté français, mais celui-ci, on le voit souvent, hein, pour peu qu'on regarde beaucoup de films français. Et je n'ai pas mis, je le dis, hein, celui qui nous indique que ce film est né sous une bonne étoile. Allez, dernier extrait. Alors, j'ai voulu terminer avec celui-ci parce que...
C'est la MGM.
Oui. Avec ce fameux lion. Des fois, il arrivait tout seul, mais j'ai trouvé aussi une version où il y avait cette musique.
Et puis, il y a eu des variantes plutôt rigolotes sur, avec Tex Avery ou même d'autres, hein, il me semble.
Oui, il y en a plein.
Genre, il y avait un petit chat qui...
Voilà. Oui, mais c'est un peu ça, oui. Ouais.
Voilà, donc, nous parlions du générique de film, générique de début au cinéma. C'était une petite introduction. La semaine prochaine, je vous parlerai des premiers réalisateurs qui ont pensé à être inventifs et introduire le spectateur dans leur film. Comment le cinéma voyait l'année 2024 on va en apprendre davantage avec la série que tu entames aujourd'hui, Guillaume.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Alors, pour ouvrir le bal, nous allons nous intéresser à celui qui a le titre le plus éloquent, du moins en français, hein, parce que le film en français s'appelle Apocalypse 2024 et en VO, A Boy and His Dog, donc un homme et son chien. Après la Troisième Guerre mondiale, donc Vic, joué par Don Johnson, le futur Sonny Crockett de Miami Vice, ici encore adolescent, et son chien Blood, donc sang, hein, voyage à travers la recherche de femmes à violer par Vic et de nourriture pour Blood. Alors, j'exagère un peu sur la question du viol, mais en fait, pas tant que ça, hein, parce que si Vic cherche désespérément une compagne dans ce monde post-apocalyptique, on sent quand même que l'usage de la force ne serait pas forcément un problème face à son désespoir sexuel en ces temps un petit peu incertains. Ah, l'apocalypse. Il parle par télépathie, hein, parce que Vic entend la voix de Blood dans son esprit et il lui répond à voix haute. Alors, ils finissent par rencontrer une jeune femme qui vient d'une ville souterraine appelée Topeka. Elle le presse de descendre avec lui, hein, enfin avec elle, pardon, mais Blood sent que quelque chose ne va pas et pour cause, à qui se fier dans cet univers sans foi, ni loi, ni femme facile.
Tu es trop impulsif. Je me demande vraiment comment j'ai pu réussir à te garder en vie aussi longtemps. Si j'étais toi, je m'abstiendrais de descendre dans ce trou, à moins que tes goûts aient bien changé. C'est un vrai carnage. Je l'ai dit, c'est un vrai carnage.
Tu es pas sourd?
Ben, on le dirait. Tu ignores tous mes conseils. Parfois, tu es aussi primitif qu'un vagabond. À la moindre odeur de femelle, adieu, prudence, ton œil se fiche, ton cerveau se gèle et tes glandes frémissent.
Ben, je vois rien là-dedans. Flair, tu veux?
Non, c'est toi le Libby aujourd'hui, mon cher Vic.
Me les casse pas, prof compris, allez, flair!
La voie est libre.
L'accroche sur les affiches françaises comme américaines fait peur. Un futur si proche que vous le vivrez peut-être. Alors ce futur, il est écrit et réalisé par l'acteur L.Q. Jones, hein, principalement connu pour sa participation à des westerns. Alors il a adapté hein, une nouvelle de l'écrivain Harlan Ellison ici. Produit à l'époque où indépendant signifiait ben, en règle générale exploitation, hein, A Boy and His Dog, hein, ou Apocalypse 2024, était un projet un peu guérilla hein, pour plusieurs vétérans d'Hollywood qui avaient envie de faire quelque chose de différent un petit peu en dehors ben, du système préétabli. Alors Ellison avait d'ailleurs refusé hein, quelques grosses offres de studio hein, comme Warner ou Universal et avait préféré céder ses droits d'écran ben, à L.Q. Jones, hein, qui était surtout connu donc, comme cascadeur. Donc il lui a donné carte blanche pour l'écrire et le réaliser. Alors c'est un projet hein, qui a quand même attiré quelques noms non négligeables hein, et dont quand même Don Siegel, le papa de l'invasion des profanateurs de sépultures, les proies, les vadés d'Alcatraz ou encore l'inspecteur Harry. Alors le résultat final, hein, même s'il est assez original car le genre du post-apo, post-apocalyptique n'existait pas encore vraiment. Si on met de côté hein, des films comme La dernière femme sur Terre de Roger Corman en 1960 ou le sublime Le monde, la chair et le diable de Ranald McDougall en 1956, il s'inscrit dans la lignée des grands films dystopiques post-apocalyptiques hein, des années 70 comme Orange Mécanique de Kubrick en 71, Rollerball de Norman Jewison en 75, THX 138 de George Lucas en 71, Soleil vert de Richard Fleischer en 73, Le survivant de Boris Sagal en 71, voire même Les femmes de Stepford hein, de Brian Forbes en 75, qui lui aussi met en scène une société particulièrement misogyne. Le film excelle dans sa présentation minimaliste qui présente un avenir effrayant et stérile, preuve que le budget n'était pas un des avantages dans ce cas précis. Là où le film donc excelle, c'est cette présentation satirique et ironique de l'humanité post-conflit mondial dévastateur, en particulier dans la seconde moitié lorsque notre héros rencontre le véritable avenir de la société humaine. Où est son présent? À vous de juger quand vous regardez le film. Si, sans oublier son humour dévastateur, parce que il faut bien le dire, les conversations entre Vic et Blood sont franchement hilarantes, au premier comme au 15e degré.
Quant à la 4e guerre mondiale, elle n'a duré que 5 jours, le temps que les missiles quittent leur silo et atteignent des deux côtés leurs objectifs. Et pour quel résultat? Jadis, il y avait ici des familles unies et des cœurs
généreux. Garde ta guimauve, j'en ai plein d'autres tes discours!
Maintenant, tout n'est plus que désolation. Une caricature civilisation survit sous un océan de boue, dominée par ceux qui sont assez forts pour faire régner leur loi cruelle. Mon Dieu, c'est dramatique. J'aime ça. De nous, la ville de Phoenix, Arizona, où en l'an de grâce 2006, il y a 18 ans, tu vins au monde et nous nous associâmes.
L'impact d'Apocalypse 2024 est bien évidemment assez conséquent, hein, qu'il soit direct ou indirect. Alors, indirectement, il est assurément le parent le plus proche hein, de l'arbre généalogique post-apo, du célébrissime Mad Max de George Miller, et surtout du second opus, hein, même si ce dernier s'en est assez défendu hein, dans plusieurs interviews. Il est également l'un des nombreux films post-apocalyptiques à avoir fortement influencé la série de jeux vidéo Fallout, hein, pierre angulaire du post-apocalyptique dans les univers vidéoludiques depuis désormais presque 30 ans, et qui vient d'être adapté avec gros succès hein, sur Amazon Prime. Sa gestation a quand même été étonnante, hein, car ses différents auteurs ont dû au final livrer une vision presque opposée au sein d'une même œuvre. Le scénario a été initié par Harlan Ellison, hein, qui a écrit la nouvelle hein, sur laquelle il est basé. Ellison a malheureusement rencontré le syndrome de la page blanche ou du blocage de l'écrivain, et donc le producteur hein, et le réalisateur ont pris le relais et ont terminé le script. Alors Ellison aurait fait l'éloge du film après sa première, au grand soulagement du producteur, mais des rumeurs courent selon lesquelles il aurait ensuite condamné le film. Pour cause, hein, malgré tout ce qu'on a dit, le film se termine sur une dernière note très singulière. Hein. C'est l'une des raisons pour lesquelles le film jouit désormais d'un statut culte. Ben, c'est sa dernière scène très très noire, mais aussi très drôle, car arrivant presque comme un cheveu sur la soupe avec une misogynie affichée littéralement de manière sanglante. Alors, ironiquement, hein, Harlan Ellison détestait cette ultime scène hein, et a fait activement campagne pour sa suppression sans succès. Et bien, malgré tout ça, d'après une interview réalisée en 2003 du réalisateur, une suite intitulée A Girl and Her Dog, soit Une fille et son chien, aurait été un temps envisagée. Donc, comme quoi George Miller et sa Furiosa n'étaient plus si loin que ça. Ce film a été donc critiqué pour son caractère sexiste, c'est le cas, vu cette scène de fin, même si on peut affirmer que ce n'est pas tant le film qui est sexiste, mais surtout, et bien évidemment, son protagoniste, hein, ce qui fait toute la différence, car nous n'avons pas, bien évidemment, besoin de sympathiser avec lui. On comprend même que nous ne sommes jamais véritablement en phase hein, avec un tel personnage, et que, contrairement à Mad Max 2, qui mythologise le récit montré et narré, ici, le film ne raconte peut-être pas la même chose ou histoire que celle que nous voyons à travers les yeux du garçon et surtout de sa libido. Donc, Apocalypse 2024, c'est une étude franchement plus sombre que ce qu'il paraît hein, sur la nature humaine et ce qu'elle tend à devenir très rapidement quand les barrières sautent, soit le même constat que Stanley Kubrick avec son Orange Mécanique.
Merci Guillaume, tu reviens la semaine prochaine donc, pour nous parler d'un nouveau film qui aura vu l'année 2024. Alors comment, peut-être pas de manière post-apocalyptique. Maintenant, on entame encore une nouvelle série pour cet été. C'est le cinéma fantastique au féminin et français.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama, c'est un passe-temps surprenant.
Pour introduire logiquement ce petit cycle alors, autour des réalisatrices françaises hein, qui ont œuvré au sein du cinéma alors, fantastique de près ou de loin, hein, j'ai un peu triché avec le genre. Hein. Donc dans les années 2000, hein, puisque ça va être le cycle par la suite... Hein. Alors, un rappel historique s'impose afin de dresser un constat évident, hein, déjà peu aidé par une invisibilité réelle. Hein, les femmes réalisatrices du XXe siècle alors, sont non seulement très peu nombreuses, mais n'ont quasiment jamais investi le cinéma de genre. Alors, il est inutile hein, de revenir sur les causes hein, qui englobent certes la plupart des arts, mais force est de s'incliner devant une évidence. Hein, le cinéma reste sans doute l'art qui a peut-être le plus effacé les femmes sur le plan créatif. Alors revenons aux origines. Hein. Alice Guy alors, réalise en 1893 La Fée aux Choux, alors court-métrage qui a connu plusieurs versions, hein, montrant une fée qui retire des nouveau-nés de choux. Alors cette fantaisie, hein, basée sur une sorte de légende urbaine, est à la fois bah, le premier film à caractère fantastique, tout sexe confondu, hein, conçu donc bien avant les plus célèbres bobines de Méliès, et aussi bah, le premier mis en scène par une femme, Alice Guy, se désignant alors comme une directrice de prise de vue. Alors pionnière de l'avant-garde hein, pour ses aspirations impressionnistes et puis son appétence pour l'abstraction, Germaine Dulac a frôlé le surnaturel à plusieurs reprises, hein, alors déjà dans Le Diable dans la ville en 1924, et surtout dans La Coquille et le Clergyman, un délire surréaliste de 1927, hein, bon, d'une modernité réelle, hein, scénarisé par Antonin Artaud. Alors le cinéma parlant va un peu verrouiller l'imaginaire des artistes et progressivement, le fantastique disparaît de la production. Hein, le cinéma des Frères Lumière, hein, celui on va dire du réalisme pour caricaturer, a un peu supplanté bah, celui de Méliès lié au surnaturel, à la fantaisie. Hein. Alors quelques exceptions subsistent, hein, bien sûr, comme La Belle et la Bête ou encore La Main du Diable de Maurice Tourneur. Alors, une réalisatrice, hein, Jacqueline Audry, hein, très importante cinéaste, apparue dans les années 40, quasi oubliée aujourd'hui, adapte Le Huis Clos de Jean-Paul Sartre en 1954, reprenant bah, la trame d'origine. Deux femmes et un homme ayant commis des crimes de leur vivant se retrouvent, après leur mort, enfermés dans un lieu clos, condamnés alors à se confronter les uns et les autres.
Enfin, pourquoi nous a-t-on réunis ?
Ben, c'est le hasard. Ils cassent les gens où ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi croyez-vous ?
C'est avec votre hasard.
Ben, vous n'y croyez pas ?
Non. Enfin, comment expliquez-vous ? Nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois.
Jamais. Je ne vous aurais pas oublié.
Ou alors c'est que nous avons des relations communes. Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour ?
Qu'est-ce qu'ils font ?
Ils ne font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'ai été employée des postes.
Ah oui ? Oui, en effet, oui.
Et vous, monsieur Garcin ?
Je n'ai jamais quitté mon pays.
Dans ce cas, vous avez parfaitement raison, c'est le hasard. Vous me faites bien rire. Moi, je vous dis que cette pièce nous attendait.
Oh, elle est trop laide.
Ça aussi, c'est peut-être fait exprès. Alors, tout est prévu ?
tout.
Alors le film trahit un peu ses origines théâtrales, hein, c'est logique, hein, puisque le film quand même, la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre est vraiment le huis clos le plus exemplaire, hein, mais c'est quand même une réussite. Alors c'est un film pas très connu, je ne le connaissais pas, je l'ai découvert récemment. Alors je ne sais pas si vous le connaissiez ce film.
Moi je connaissais son existence mais je ne l'ai pas vu.
Oui, non, mais voilà, je pense qu'il n'a pas été tant vu que ça en fait. Alors après j'ai eu beau chercher, alors notamment chez certaines cinéastes très connues, un peu iconiques comme Agnès Varda ou Yannick Bellon. Alors j'ai rien trouvé de fantastique un peu dans leur filmographie.
Agnès Varda, il y aurait peut-être les 100 vies de Simon Sinema qui
sur la fin, voilà. Oui, mais vaguement, cinéma, voilà, il y aurait plus. Bon, c'est vrai.
C'est plus un gimmick en fait, ouais. Pour parler des 100 ans du cinéma.
C'est un peu autre chose. Mais effectivement, c'est bien de le dire parce qu'il y a tellement peu de choses que j'ai rajouté aussi des choses par la suite qui avaient très peu ou voire aucun rapport avec le fantastique. C'est juste par l'atmosphère. Alors en 1974, cela dit, j'ai trouvé. Alors il y a une certaine Rachel Weinberg qui réalise. Alors pour la télévision, mais c'est un film qui sort en salle et qui s'appelle L'Empélopède avec une Isabelle Huppert toute jeune. Alors là, on rentre de plein fouet dans le genre puisque le film raconte la manifestation d'une créature monstrueuse dans un petit village tranquille en Sologne. On y croise même, alors fidèle à une tradition du genre, un docteur un peu zélé, fêlé même, qui veut utiliser la bête à des fins contre nature. Alors une curiosité, c'est bien de chercher justement des réalisatrices femmes parce qu'on tombe sur des choses un peu méconnues que j'ai réussi à trouver par des moyens pas toujours très légaux, mais le film étant totalement invisible, on se le procure comme on peut. Alors voilà, ensuite, Monument d'ennui pour les uns, chef-d'œuvre novateur pour les autres, Indian Song, hein, de la romancière donc Marguerite Duras. Alors ne laisse pas indifférent, mais peut-on considérer cet essai quasi expérimental comme une œuvre fantastique ? Objectivement, oui, puisque quand même il s'agit d'un pur film de fantômes mettant en scène donc Michael Lonsdale et Delphine Seyrig, dans une sorte de rêverie désynchronisée, alors portée par la sublime musique de Carlos D'Alessio et puis des voix qui sont jamais raccord avec le mouvement des lèvres. D'une certaine manière, hein, Duras poursuit, on peut dire, les expérimentations visuelles d'une Germaine Dulac, avec bien sûr le son en plus. Hein. Alors, on fait un bond en avant, hein, passant d'une décennie à l'autre, tellement c'est pauvre en film fantastique français réalisé par des femmes. Hein. Alors, dans les années 80, c'est encore pire. Hein. J'en ai pratiquement trouvé aucun, voire aucun. Mais une seule exception peut être attachée, alors par défaut, alors on va dire au cinéma de genre, hein, plus que fantastique, c'est le plutôt réussi Fréquence meurtre d'Elisabeth Rapneau qui emprunte toute sa structure et sa facture visuelle élégante au giallo. Alors c'est marrant parce que le film ressemble comme deux gouttes d'eau finalement à du Lamberto Bava parfois. La différence c'est qu'il est quand même solidement interprété par Catherine Deneuve, André Dussolier et Étienne Chicot. Alors plutôt bien écrit, hein, même si on devine rapidement l'identité du coupable. Hein. Fréquence meurtre est c'est un bon thriller très très années 80. Alors jusque dans sa musique, voire sa production, puisque le film est produit par la Energy, qui était la grosse radio en vogue à l'époque, et tout baigne dans l'univers musical de cette radio, parce que Catherine Deneuve joue une journaliste de la dite radio. Alors d'un tout autre genre, hein, près de 10 ans plus tard, on peut aussi signaler le sympathique film de Colin Serrault, La Belle Verte, hein, qui offre, on va dire, le premier film de science-fiction réalisé par une femme. Alors c'est pas Star Wars, hein, ni même Silent Running, parce que ça pourrait être assez proche de ce film, dont l'analogie concerne évidemment le message écolo. Alors assez éreinté par la critique à sa sortie, finalement La Belle Verte est un charmant et sincère éloge à la protection de la nature en partant d'une histoire farfelue.
Alors, espèce de connard, va faire attention, non ? Mais où tu te crois, connard ? Tu sais conduire ou quoi, pauvre con ?
Pardon, monsieur, je suis désolé.
Connard !
J'étais en train de discuter.
Mais tu te crois où, pauvre con ?
J'ai un tout petit peu touché à votre rétroviseur.
Connard !
Je crois que là, ça va. Il a rien, le rétroviseur.
Tu sais conduire ou quoi, pauvre con ?
Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser.
Connard ! C'est terrible!
terrible ce qui vous est arrivé.
De quoi?
Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé.
Espèce de connard.
Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a celles qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible. On a touché à ton rétroviseur.
Mais monsieur, calmez-vous, monsieur.
Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres? Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la coquefies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur pelle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la police de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches! Mais vous êtes fou, monsieur.
Alors on entend Francis Perrin et puis un des premiers grands rôles de Vincent Lindon.
Oui, qui a joué assez régulièrement chez Colin Serrault au départ. Hein. Alors plus réaliste et plus trash, hein, Trouble Every Day nous fait redescendre sur Terre. Claire Denis alors donne l'impulsion avec son film culte porté par la présence magnétique de Vincent Gallo et puis la super musique de Tindersticks. Hein, cette histoire d'amour détraqué alors sur fond de cannibalisme, très à la fois très viscéral et sensitif, hein, hypnotique et charnel, va finalement devenir la référence pour toute une génération de cinéastes à venir. On entre dans le 21e siècle, hein, le film étant sorti en 2001, début d'une ère donc plus féconde en films fantastiques féminins. Donc j'en parlerai la suite, hein, la semaine prochaine, avec donc le premier film de ce cycle, qui est donc Innocence de Lucile Hadi Halilovic.
Merci Manu. On termine cette émission très très vite avec le dernier film de Kevin Costner.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Nous sommes les gardiens de l'un des derniers grands espaces.
L'inquiétude des premiers retours critiques canois, hein, ne pouvait pas cacher une plus grande claque. Alors avec Horizon, une saga américaine, chapitre 1, Kevin Costner fait du projet d'une vie une fresque magnifique et propulse le western américain dans ses derniers retranchements, alors qu'il avait déjà délivré gros en la matière avec, excusez du peu, Danse avec les loups, Open Range et le petit chef-d'œuvre, oui oui, méprisé, qu'est Postman, qui, sous sa couverture de film post-apocalyptique, est probablement l'utilisation la plus intelligente des tropes du western hors genre, vu qu'il mettait en scène la reconstruction d'un monde détruit grâce au retour du Pony Express, soit ce qui a achevé d'unir véritablement les États-Unis.
Ces gens pensent que s'ils sont suffisamment forts, suffisamment rusés et suffisamment cruels, tout cela leur appartiendra un jour. Aucune armée sur cette terre ne pourra empêcher ces pionniers d'arriver, qu'ils soient les bienvenus ou non.
Horizon, c'est 3 heures d'une beauté, d'une intensité exceptionnelle, où l'on navigue entre 1000 destins sans jamais sentir la pesanteur d'une seule seconde. La tâche était complexe car il y a énormément de personnages plus ou moins liés entre eux. Malgré ce grand défi, on assiste à des enchaînements clairs, fluides, tels les fiers points de jonction d'un montage exemplaire qui embrasse le terme saga dans toute son ampleur et de la plus noble des façons. Costner, armé de tout son amour primitif, naïf et pur du genre, monte sur les épaules de la mini-série Lonesome Dove, qui est synonyme d'acmé de la production télévisuelle sur le western aux États-Unis, et bien évidemment de La Conquête de l'Ouest, ce monumental film réalisé en cinérama par John Ford, George Marshall et Henry Hathaway, qui a d'ailleurs l'une des plus belles musiques jamais composées pour un western, signé Alfred Newman. Je précise que pour Horizon, l'excellent compositeur John Debney ne démérite franchement pas. Donc, Kevin Costner nourrit sa narration d'une richesse folle, avec ce qui est pour moi les plus belles performances à ce jour d'un casting entièrement dévoué à ce monument en construction. Il faut plonger dans les regards de Sienna Miller, Sam Worthington, qui a énormément appris sous la direction de James Cameron depuis 13 ans, Michael Rooker, de Kevin Costner bien évidemment, ou encore de Will Patton, déjà magistral dans Postman, tiens. Donc voilà, il faut les voir pour y croire et le vivre. C'est d'ores et déjà l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année, et c'est un vrai projet d'artiste totalement dévoué à sa cause qu'il faut découvrir impérativement sur grand écran. L'Ouest lointain, ses lumières, ses ténèbres et ses frontières mouvantes ne peuvent briller que dans ce format. Il serait criminel de ne pas vous-même devenir l'une de ces âmes qui cherchent dans cet horizon, le nom de la ville, un point de chute idéal.
Horizon de Kevin Costner est en salle depuis le 3 juillet.
Au revoir. Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même. Comme vous êtes bizarre.
Oui,
c'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
Nous revenons la semaine prochaine avec chacun nos séries. Moi, je vous parlerai des films qui n'ont pas de générique. Et toi, Guillaume?
Moi, je vais vous parler du problématique Highlander 2.
À la semaine prochaine et bel été!